À la suite du conseil municipal d'Arras du lundi 14 décembre ainsi que de la conférence de presse du maire qui l'a précédé à propos du futur projet du Palais Saint-Va avec notamment la construction d'un hôtel de luxe, Colette Marie, Antoine Détourné et Grégory Wattin du groupe Arras Écologie au conseil municipal d'Arras ont donné une visioconférence de presse pour aborder certains éléments d'information autour de ce projet qui suscite pour eux de vives inquiétudes. Je vous propose donc d'écouter quelques extraits de cette conférence et on commence par Grégory Wattin qui s'exprime sur l'aspect du projet culturel intitulé La fabrique de l'imaginaire et qui, comme le dit Antoine Détourné, est le parent pauvre, voire absent, de ce projet.
Si vous avez bien regardé un petit peu notre position depuis le début de depuis les élections, en fait, on a quand même été dans l'attente d'avoir les informations qui nous semblaient pouvoir arriver à un moment. Et en fait, c'est du vide, hein, qui est arrivé. On a beau relire et encore ce matin pour vraiment se dire, mais on a peut-être quand même raté quelque chose. Non, en fait, on a beau chercher, gratter partout où on peut gratter. Les seules informations qui sont apparues en conseil municipal lundi soir, ce sont celles que l'opposition a proposées soit pendant la visite de l'abbaye Saint-Va, soit en commission culturelle les semaines précédentes, le conseil, c'est-à-dire la visibilité des réserves et puis la question de la salle jaune qui s'était jusqu'alors jamais présentée à nous et qui n'est dans aucun document écrit. Oui, c'est pas juste un parent pauvre, c'est un parent absent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a une réflexion sur l'abbaye de Saint-Va et ce qui s'appelle un pôle culturel, c'est quand même complètement fou d'imaginer qu'on n'ait à aucun moment le mot culture quasiment prononcé. C'est-à-dire que vraiment, là où ça devrait être l'élément central de toute réflexion et l'axe majeur de ce projet, on est sur quelque chose d'accessoire, d'anecdotique, de parcellaire. Et on voit bien que finalement, tout tourne quand même autour de la seule question qui intéresse vraiment la municipalité, c'est-à-dire l'hôtel. Et on a beau fouiller, hein, moi j'ai cherché un peu tous les projets qu'il y a en France, ailleurs dans le monde. Généralement, quand il y a un projet d'hôtel ou de restaurant, ou parfois d'autres éléments de commerce, on va dire, pour faire simple, c'est toujours autour d'un grand projet culturel, c'est-à-dire que c'est jamais par un projet commercial que s'adosse un petit projet culturel, surtout pas quand on est dans un bâtiment qui lui-même est un élément de la culture, du patrimoine, par sa nature physiologique presque, hein, de bâtiment du patrimoine, mais aussi par ce qu'il contient. Jamais on trouve d'exemple, hein, où c'est parce qu'on construit un hôtel qu'on ajoute un musée. C'est toujours l'inverse. C'est-à-dire que même quand on construit un musée, je prends l'exemple du musée Pierre Soulages, il y a un musée qui se constitue et derrière s'organise, s'articule l'économie des restaurants, des commerces, et ça crée une émulsion. Donc, vous avez bien vu, hein, on n'est pas contre un projet d'hôtel en soi, on n'est pas contre la participation du privé dans le public, mais c'est à faire autour d'une démarche, d'une réflexion qui porte d'abord sur la culture, sur la préservation du patrimoine arrageois, qui est considérable, qui est même pour la salle des Jaumes quasiment unique au monde. Donc, c'est quand même ce qui nous semblé le plus fou, c'est ça, c'est qu'il y a une matière culturelle exceptionnelle et tout tourne autour d'un hôtel qui, lui, en soi, n'a rien de particulier. Quoi. Voilà, c'est un hôtel de luxe, ça n'apporte pas grand-chose. Et même dans la constitution de l'hôtel, on ne voit pas naître quelque chose qui serait un vrai projet culturel de mécénat des arts, de rapport à une réflexion sur les œuvres présentées. Non, il n'y a rien de tout ça, c'est vraiment juste de l'accessoire. De l'œuvre décorative. Je l'ai dit en conseil municipal, en plus, il faut faire la distinction, je pense, aussi entre les œuvres muséales et puis l'art en général, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a des expériences partout d'hôtels avec des œuvres d'art, mais généralement, ce sont des œuvres dont les artistes sont encore vivants et ont eux-mêmes le choix de la destination et de la présentation de leurs œuvres. Là, on a une responsabilité quand même vis-à-vis des artistes, vis-à-vis aussi des donateurs de ces pièces-là qui font le fond de la réserve du musée d'Arras. et on ne peut pas s'amuser à le traiter comme voilà, de la simple décoration. Un exemple très simple en conseil municipal, c'est que quand j'ai parlé de préserver l'intérieur du musée, on m'a répondu décoration d'intérieur. On ne m'a pas répondu sur la question des œuvres d'art, comme si les peintures de murs étaient l'alpha et l'oméga du projet, alors que moi je parlais évidemment des œuvres qu'on a en réserve. Et que, bien sûr, la protection du bâtiment, de refaire ses toitures, etc., sont prioritaires, parce qu'on ne peut pas préserver des œuvres si on ne préserve pas le bâtiment. Mais je ne parlais pas de la décoration, je parlais vraiment des œuvres. Enfin, pour revenir sur la question du budget, parce qu'on n'est pas naïf, hein, on sait que la question de la culture, c'est aussi une question de sous. C'est pas, on n'est pas dans un rêve ou dans une utopie, hein. Je crois qu'on a prouvé dans notre campagne que nous étions des écolos pragmatiques et réfléchis. On sait que la culture coûte cher, on sait que, mais vraiment là, il y a absolument rien. Par exemple, dans la question de ce qui a été présenté pour la première fois en conseil municipal lundi, la visibilité des réserves, ça a un coût. Ça crée aussi de l'emploi si on réfléchit bien, parce qu'il faut du personnel pour gérer ça. Mais même tout bêtement, hein, dans ces questions de réserve, avec le partenariat avec l'hôtel, aujourd'hui, on ne sait pas qui prendra en charge l'accrochage des œuvres. Est-ce que c'est les employés du musée qui feront la déco dans l'hôtel ? Est-ce que ça sera déchargé la responsabilité du personnel hôtelier qui n'a pas les compétences pour le faire, à ma connaissance, d'accrocher des œuvres ? Puis cette visibilité des réserves, moi, me semble quelque chose qui aurait été un vrai, vrai travail, parce qu'on pense souvent et on parle souvent de projets alternatifs à cette hôtel. Je pense que dans la monstration des réserves, comme ça a pu être fait à la Cité de la Musique, par exemple, eh ben oui, il y a des métiers d'art qui sont liés à ça. Ça demande aussi des espaces nouveaux. Et ce n'est pas quelque chose économiquement non viable. Ce sont des choses qui aussi rapportent de l'argent, font venir des gens qui travaillent. On nous a beaucoup parlé du quartier des arts à Arras, qui est pour le moment quand même en difficulté, on peut dire. Il y avait des passerelles à faire aussi avec ça. Et juste pour finir, sur la question de la salle des Jaulmes, là, on est bien conscient que c'est un projet qui demande énormément d'argent. On nous parle beaucoup de la verrière de l'hôtel. On ne nous parle absolument pas de la verrière de la salle des Jaulmes, qui est une des vraies problématiques du musée d'Arras, parce que il y a aujourd'hui des choses à faire, il y a des techniques qui existent qui supprimeraient les problèmes d'étanchéité en fait de cette verrière. On pourrait très bien envisager du mécénat, et là, ça serait tout à fait à propos d'aller chercher des entreprises compétentes pour faire du mécénat, pour pouvoir aller chercher des fonds et faire valoir vraiment ce patrimoine unique qu'on a, qui en plus s'articule complètement avec une politique culturelle de la ville qui serait autour de l'art déco, et qui en soi, à mon avis, hein, vraiment la salle des Jaulmes, ça pourrait être le seul vrai grand moteur de tout le projet. C'est-à-dire que si on avait réfléchi en amont à cette salle, et pris connaissance et pris conscience de son importance, ça pourrait être le cœur vraiment du projet culturel, et donc faire qu'un hôtel éventuel serait utile par rapport aux visiteurs qu'on pourrait avoir sur cette salle et du coup sur Arras en général. La question d'aller chercher un partenaire, c'est pas remise en cause, c'est d'aller chercher un partenaire après avoir poser un projet culturel, c'était l'évidence. Aller chercher un partenaire sans projet culturel, c'est ça qui nous semble nous dérangeant.
Antoine Détourné nous parle à présent des aspects financiers du projet et notamment du concept de la verrière qui pose problème. Il nous dévoile également que sur les 5 propositions de différents architectes, pourquoi c'est Pierre-Antoine Gattier qui a été choisi pour la rénovation de la partie publique du Palais Saint-Va qui comprend le musée et la médiathèque.
L'estimation des coûts qui a été présentée par Pierre-Antoine Gattier, hein, donc qui faisait partie de l'appel d'offres et qui a été remise et examinée en commission de l'appel à projet le 16 novembre dernier. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux tranches. Donc il y a bien une tranche à 14 millions d'euros et une tranche à 4 200 000 euros. Toute la première partie de la tranche, à savoir les 14 455 000 euros, sont pour l'essentiel du gros œuvre. C'est-à-dire les toits, les charpentes, les couvertures, les lucarnes, les menuiseries, les façades, la serrurerie, etc. Et au milieu de cette tranche donc de 14 millions et demi d'euros, c'est pour ça que je disais pas de bêtises quand je disais que le coût de la verrière était de plus de 10% de cette tranche de clos couvert, hein. Elle est là, la verrière de la cour du Puy, hein. Ça fait bien 10% de 14 millions. Et dans le reste, il y a à peu près 2,5 millions, 3 millions sur ces 14 millions qui sont pour la fabrique de l'imaginaire. Bon, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est quand on regarde la tranche optionnelle numéro 1, celle à 4 200 000 euros, c'est là où on trouve l'essentiel des travaux de la fabrique de l'imaginaire. Et donc, c'est ceux qui sont le plus hypothétiques parce que sur cette première partie, les 14 millions, on sait que la ville, elle a déjà à peu près trouvé du contrat de plan État-Région, des financements Action Cœur de Ville, des financements du plan de relance de l'État et donc des financements publics. Ce ne seront pas des financements privés qui vont sauver l'ABI comme on l'a entendu, ce sont des financements publics. Et c'est normal et légitime puisque c'est un bâtiment public magnifique, extraordinaire, original. Par contre, ce que l'on conteste, c'est que le un tien, c'est le gros œuvre, pas de problème. Le tu l'auras, c'est un peu comme ce que disait Grégory, l'aspect culturel. Et dans ce gros œuvre, il y a pour nous quelque chose de très gênant, qui est un cadeau fait à l'hôtelier, qui est la verrière de la cour du Puy. Parce que quand on regarde le projet de l'architecte, on s'aperçoit que cette verrière, qui sera le lobby de l'hôtel et qui en fait est la partie de la rénovation qui est offerte à l'hôtelier, hein, parce que ce sera un endroit de restauration, ce sera un endroit où on accueillera les arrivants à l'hôtel. Moi, j'ai du mal à croire qu'on va avoir des gamins des écoles d'Arras qui viendront y prendre leur goûter ou admirer les œuvres des collections temporaires. Cette verrière, elle pose plusieurs problèmes, au-delà du fait que c'est quand même de l'argent public qui va servir de fait à un hôtel plutôt très haut de gamme. Elle pose un problème écologique, puisque, et ça, ça fait partie des coûts cachés qui ne figurent pas dans le dossier de l'architecte. Philippe Prost, qu'on connaît bien sur la Rajoie, Philippe Prost, c'est quand même pas, c'est pas Antoine Détourné, c'est un profil architecte, quoi, hein, voilà, je me permettrai pas, une verrière comme ça, l'été, c'est plus de 45 degrés, à l'année, en chauffage et en refroidissement, suivant le temps, c'est 20-25 000 euros minimum annuellement. Donc, qui va prendre en charge ça? Moi, je pose la question. Hein, 20-25 000 euros, on commence à faire des choses intéressantes dans une ville. Si, comme le prévoit Pierre-Antoine Gatier, il y a des œuvres qui sont stockées, comment on fait circuler l'air et on s'assure de l'intégrité des œuvres? Autre question. Et globalement, est-ce que cette verrière est bien chiffrée? Moi, j'ai des doutes pour deux raisons. La première, c'est qu'elle doit s'appuyer sur des façades. Est-ce que les façades sont assez solides? Et s'il faut creuser, on a quand même 1200 ans d'histoire d'Arras en dessous. On ne sait pas ce qu'on va trouver quand on va fouiller. Et la deuxième chose sur cette verrière, c'est que sur les 5 répondants à l'appel à projet à la première présélection, 3 ont proposé une verrière. Philippe Prost a dit qu'il ne faut pas faire de verrière parce que c'est au minimum 2,5 millions d'euros si on veut faire les choses correctement. Et lui prévoyait le système de refroidissement, machin, etc. Et il n'a pas été retenu justement parce qu'il a refusé la verrière. Voilà. Et sur les 5 candidats, 3 ont proposé une verrière. Et parmi ces 3, il y en avait un qui proposait la verrière, mais qui disait c'est soit la verrière, soit les façades extérieures, sinon on n'aura jamais de budget. Donc ça veut dire qu'en vérité, il y a 2 candidats qui ont proposé une verrière. Parce que pour pas refaire les façades à un projet à plus de 20 millions d'euros, c'est inacceptable. Donc ça pose la question du chiffrage du projet. Il y a 5 dossiers qui ont été présentés et il y en a 2 qui ont été éliminés, dont Philippe Prost. Quand on regarde sur les 5 répondants, Philippe Prost dit, pour refaire la fabrique de l'imaginaire et correctement l'abbaye Saint-Va, en vrai, ça doit coûter près de 32 millions d'euros. Un autre architecte qui ne propose pas de verrière, alors lui, il dit, sans verrière, c'est 21 millions et demi d'euros. Donc, on est déjà au-dessus de ce qui est prévu. Un troisième dit, écoutez, on fait la verrière, mais on en a pour 24 578 000 euros, mais c'était probablement faux parce que le chiffrage de la verrière était sous-estimé. 372 000 euros, c'est pas possible. Les deux derniers, il y en a un autre qui chiffre le total à 28 millions d'euros et Pierre-Antoine Gatier qui, lui, est à 20 millions. Il y a quand même un très gros enjeu de crédibilité de l'enveloppe globale sur l'architecte qui a été retenu. Et moi, j'en veux pour preuve qu'il fait la verrière, mais par exemple, sur d'autres sujets, il ne dit rien. Par exemple, les abords de l'abbaye Saint-Va, vous voyez bien la place de la Madeleine, tout ce qui est du côté de la rue Albert Ier de Belgique, etc., ce devra être remanié, bien évidemment, puisqu'il faudra faire arriver des clients de l'hôtel. Ça, c'est pas du tout prévu. dans le projet de Pierre-Antoine Gatier. Donc il y a aussi une incomplétude de ce projet par rapport aux abords, et donc ce qui concerne plus directement les Arageois. Donc à un moment donné, on risque de se retrouver, et c'est là où je pense qu'il faut en venir, soit à une ribambelle de surcoûts, qu'on a déjà connu dans les projets Arageois, la pression d'un hôtelier qu'on a déjà vu pendant toute la commission d'appel d'offres en disant « pas de verrière, pas d'hôtel », ça c'est un vrai problème. Et là, on découvre dans un calendrier qui nous a été présenté, je crois, lundi soir, que la prise à bail doit être négociée avec l'hôtelier en février 2021. C'est-à-dire que les négociations sont déjà faites, le projet architectural qui a été choisi est le moins cher, mais peut-être le plus plastique. Et donc, ça nous fait craindre sur le déséquilibre du partenariat public-privé que ce soit l'hôtelier qui décide de tout ce qui n'a pas été décidé, avec potentiellement des surcoûts pour la ville d'Arras. C'est pour ça que nous, on demande à ce que la ville d'Arras, et on va le demander publiquement, plus directement par l'intermédiaire d'un courrier qui est en préparation, que la ville d'Arras nous présente les éléments de négociation de la prise à bail. Parce que le bail, il va engager pour 70 ans, il est fait dans des conditions où il y a des choses qui sont pas tranchées, où il y a un déséquilibre sur le fonctionnement, enfin sur le projet global, sur le plan culturel et sur le plan financier. Et on pense qu'on va mettre le doigt dans un engrenage particulièrement inquiétant pour notre ville, pour ses finances et pour ses projets. Moi, je pense qu'en effet, il a été choisi pour rassurer face à un projet qui inquiète. Il rassure parce que c'est le moins cher. Le moins cher dans la première version, c'est pas toujours le moins cher à la fin. Et la deuxième chose, c'est que c'est une garantie parce que c'est quelqu'un qui est très introduit dans les milieux architectes, commission des monuments historiques, etc. C'est celui qui a présenté, quand on a fait la sélection des cinq, le dossier le moins détaillé. Les gens de la majorité se demandaient même s'il allait réussir en un mois à présenter un vrai dossier. Et quand on regarde, bah, c'est quand même le dossier le moins complet de tous.
Colette Marie, quant à elle, revient sur les propositions faites par le groupe Arras Écologie au conseil municipal d'Arras pour notamment éviter que le groupe hôtelier ne fasse pression sur la mairie en termes d'aménagement et de finances.
L'enjeu aussi, c'est de se dire que même si nous, on est opposés en tant que tels plutôt à ce projet, la ville s'est engagée, a fait déjà un premier engagement avec ce groupement hôtelier. Donc aujourd'hui, on peut difficilement faire complètement marche arrière sur le projet. Néanmoins, en fait, avant cette signature de promesse de bail, il y a des choses qu'on peut faire et qu'il faut absolument que la ville fasse pour reprendre la main sur le projet, parce que sinon on va se faire effectivement manger par ce groupement hôtelier qui lui avance très vite, lui a des objectifs clairement définis et qui va sans problème faire des demandes très précises à la ville concernant les espaces qu'il va vouloir, les aménagements qui vont être nécessaires, etc. Donc nous, ce qu'on demande, c'est effectivement que cette signature de bail, enfin de promesse de bail, elle soit repoussée pour laisser le temps effectivement de repenser le projet culturel de la ville et de poser vraiment clairement les bases de ce projet culturel et surtout son opérationnalité, parce qu'encore une fois, l'opérationnalité de la fabrique de l'imaginaire aujourd'hui, elle n'existe pas. Donc ça, c'est la première chose. Et puis surtout, aussi tout un volet démocratique qui nous semble vraiment cruellement absent autour de la négociation avec les Arageois. Donc certes, Frédéric Le Turc a été réélu en indiquant clairement ce projet dans son programme. C'est pas ça qu'on remet en cause. Mais par contre, vu les impacts de ce projet pour les habitants des quartiers environnants, pour l'activité économique en centre-ville, le parc hôtelier existant, ça nous semble absolument primordial que ce sujet-là il puisse être débattu. Or aujourd'hui, ça n'est pas du tout le cas. Et effectivement, comme on l'a dit, nous, on veut mettre un certain nombre d'éléments sur la place publique parce qu'aujourd'hui, ça manque aussi de transparence par rapport aux différents arguments qui peuvent être évoqués quand on parle de l'ABI Saint-Va. Donc, en gros, voilà, il y a un discours porté par la majorité. Et dès qu'on essaye de poser des arguments contraires, on nous rétorque qu'on ne connaît pas le dossier, qu'on ne s'y intéresse pas et que de toute façon, on s'y oppose sur le principe, ce qui n'est pas du tout notre cas. Et je pense que là, avec les quelques informations qu'on vient vous communiquer, voilà, vous êtes en capacité de voir qu'effectivement, on s'est intéressé de très près au projet. Et justement, c'est en regardant dans le détail que nos plus grandes inquiétudes émergent. Depuis le début, hein, on s'est opposé à ce projet. C'était d'ailleurs clairement dit dans notre programme au niveau des municipales. Pourquoi on prend ce positionnement maintenant? Parce que les choses s'accélèrent, déjà d'une part du côté de la majorité, et d'autre part parce qu'on a effectivement aussi pris le temps de participer aux différentes commissions. Donc Antoine l'a très bien dit au niveau de la sélection du maître d'œuvre. On a pris le temps également de visiter l'abbaye Saint-Va avec la majorité. Donc on est allé voir sous les toitures, on est allé voir l'état du bâtiment, ils nous ont montré la salle des geôles, etc. Donc on a vraiment pris le temps d'étudier le dossier parce que les arguments qu'on veut avancer, ce ne sont pas des arguments, on va dire, d'une opposition de principe à un projet qui dirait « on est contre tout partenariat public-privé, c'est une aberration, etc. » Encore une fois, ce n'est pas là-dessus qu'on pose notre argumentaire, même si ça peut être questionné. Voilà.
Pour terminer ce sujet, deux questions leur ont été posées également concernant les abords du palais Saint-Va et leur aménagement. Colette Marie, Antoine Détourné et Grégory Watin nous donnent leur avis. Qui dit hôtel de luxe dit forcément touriste. Est-ce qu'on a aussi des signes de ce qui va être envisagé? Parce que qui dit touriste dit parking, forcément. Donc est-ce qu'il va y avoir des aménagements au niveau du parking? Comment ça va se passer? Est-ce que ça va toujours être payant? Est-ce que ça va être gratuit? Voilà.
Eh bien, on n'en sait rien.
Ouais.
La question des aménagements extérieurs, elle est vraiment problématique parce qu'aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas d'information, il n'y a pas de cahier des charges précis, on ne sait pas ce que veut la ville non plus et quelles vont être ses exigences par rapport au groupement hôtelier, par rapport à ça. Et surtout, on ne sait pas qui va payer non plus. Parce que qui dit réaménagement d'un certain nombre d'espaces publics dit aussi qu'à un moment donné, le coût peut retomber sur les contribuables arrageois, alors que c'est clairement des frais qui seront engendrés par cet équipement hôtelier. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'informations là-dessus et ça fait partie des points qui sont inquiétants.
Juste sur le côté rue Albert 1er de Belgique, ce qui est prévu pour le moment, c'est plutôt une suppression du parking en hauteur. Mais c'est une hypothèse de travail, je confirme ce que dit Nicolas. Une suppression parce que, bon, ça fait un peu, quand on est dans un hôtel de luxe, ça fait un peu dégueulasse d'avoir des Clio garés en bas, quoi, ou en face de son hôtel. Je le dis bien évidemment sur le ton de l'humour, mais c'est à peu près ça quand même, quoi. Dans les documents qui sont présentés, il y a au moins une partie des résidents de l'hôtel qui auraient vu sur ce côté-là d'Arras.
Le jardin, est-ce qu'il va toujours être public? Il ne va pas être privatisé, j'espère, parce qu'on sait qu'il y a des écoles aussi autour qui viennent faire leur sport, là, dans ce jardin.
Ça fait partie, normalement, des engagements de la majorité.
Ben, vous avez pu noter en conseil qu'on a découvert que des œuvres d'art seraient installées dans le parc. On n'en avait encore jamais entendu parler, ni en commission, ni ailleurs. C'est ni dans le projet culturel de la ville, ni dans la fabrique de l'imaginaire. Ça sort du chapeau comme ça. Quelles œuvres, dans quelles conditions Voilà, on a un peu quand même cette sensation parfois d'un remplissage de dernière minute pour donner l'illusion quand même d'un projet culturel qui n'existe pas.
C'était de larges extraits de la visioconférence de presse donnée par Colette Marie, Antoine Détourné et Grégory Watin du groupe Arras Écologie au conseil municipal d'Arras pour évoquer leur position sur l'avenir du palais Saint-Va et la construction d'un hôtel de luxe. On vous tiendra bien évidemment au courant de la suite de ce projet très prochainement en 2021.